De retour pour cette deuxième partie d'émission Au gré du temps de la série Destination Bonheur. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Mme Edith Butler. 40 ans de carrière, ça marque quelqu'un, ça?
Oui, ça devrait marquer, oui. Mais moi je suis toujours restée pareille. C'est pas quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que je l'ai pris comme quelque chose au quotidien. J'ai jamais pris ça comme quelque chose d'exceptionnel ou d'extraordinaire. Maman chantait, papa racontait des histoires. Donc, j'ai juste continué ce qu'on faisait dans la famille. Et dans les spectacles que je donne, c'est un peu comme moi dans mon salon ou même moi dans ma cuisine. Je continue ça comme ça.
Mais vous l'avez fait avec excellence. On le mentionnait, les nombreux prix qui ont souligné la part extraordinaire au niveau des arts de votre travail. Récemment, même un timbre-poste à votre effigie. Ça, c'est quand même particulier de voir son, de voir son visage apparaître sur le timbre-poste.
Oui, ça m'a surpris. Et en plus, le matin même, le 2 juillet, la journée du lancement du timbre, je suis allée à la poste puis je me suis posté une lettre. À moi-même, ouais. Avec mon propre nom, ma propre adresse, puis j'ai mis mon propre thème dessus. Et puis.
Alors, cette lettre-là, dans 100 ans, oui. Vaudra son pesant d'or.
Mais déjà, ça vaut pas mal.
Ah oui?
Parce que après la première journée que le thème est sorti, je suis allée sur eBay, puis il n'avait déjà à vendre au double du prix.
Ah oui?
54 cents, ben ça fait pas trop cher, double ça.
Est-ce que Robert Charlebois vous a écrit aussi une lettre? Parce que lui aussi a eu son effigie la même journée.
Oui, on a fait le lancement ensemble, puis on a vraiment, vraiment bien ri.
Oui.
Parce que j'avais fait un assez long discours, très drôle, puis j'ai fini mon discours en disant... Et enfin, la terre entière va savoir qui est. Puis il pensait que je dirais Edith Butler. J'ai dit qui est Robert Charlebois.
Mais essentiellement, quand surviennent des prix semblables ou l'arrivée d'un timbre-poste, est-ce qu'on réalise encore davantage l'héritage qu'on lègue au plan culturel? Parce que votre présence au sein de la communauté culturelle, elle est vraiment importante par vos chansons, par la façon dont vous avez pu transmettre cet héritage traditionnel dont on parlait précédemment.
Bien, c'est certain que ça nous arrête un peu pour penser. Hein. Habituellement, on ne pense pas en arrière, on pense en avant. Ou on pense la journée même. Comme moi, j'ai lancé le thème. Après ça, je suis allée faire une émission de télé. Et puis après ça, je suis partie, je suis allée à la campagne, j'ai travaillé sur mon camion. Et chaque chose était importante. Autant travailler sur mon camion, c'est pour ça que vous voyez que mes ongles sont pleins de graisse. J'ai travaillé ce matin encore dessus.
Ah, vous aimez faire de la mécanique comme ça?
Oui. Alors, mes journées sont vraiment pleines, mais tu sais, ça avait autant d'importance pour moi de faire le camion que d'aller au lancement du thème. Pourquoi ça... Tout est égal pour moi. Il n'y a pas de chose qui est plus importante que d'autres. Et c'est comme quand je rencontre les gens, il n'y a pas de gens qui est plus important. Pourtant, j'ai rencontré Hirohito, Reagan, Mitterrand, mais j'ai autant de plaisir à rencontrer des gens qui sont des autistes ou qui ont la tourette ou un vieillard qui a 105 ans qui vient me voir en spectacle. J'aime rencontrer la personne et non pas le titre.
Voilà. Parmi tous ces personnages, d'abord, est-ce qu'il y en a qui vous ont vraiment particulièrement marqué davantage? Parmi les personnages plus publics?
Dans les personnages les plus publics, pas que j'ai rencontré Maria Callas. Maria Callas m'a influencé beaucoup, mais je l'ai pas rencontrée.
Comment vous a-t-elle influencé?
Parce que je comprenais pas ce qu'était le charisme. J'étais assez jeune. Élise Aubu m'a offert un billet pour aller voir Maria Callas. Et moi, je n'aimais pas l'opéra à l'époque. Alors, j'ai dit, elle fait mieux d'être bonne, hein? Alors, quand je suis rentrée, je me suis assise. Quand elle est rentrée sur scène, j'étais la première debout à crier. Et je comprenais pas qu'est-ce qui
elle
se passait.
Elle occupait toute la place.
Et c'était ça. C'était le charisme, un charisme incroyable.
Mais vous, quand vous entrez sur scène, c'est un peu la même chose. Je vous ai vu récemment. Cette complicité existe encore de façon très, très, très présente avec votre public.
Mais je l'ai compris avec Maria Callas. C'est elle qui m'a donné ça. Que j'ai réussi à comprendre ça. Il y a des gens qui m'ont influencé. Le petit Simard, quand il était tout petit, j'ai voyagé plusieurs fois en tournée avec lui. Je regardais comment est-ce qu'il travaillait avec le public, lui, comment est-ce qu'il allait voir les gens, qu'il leur parlait, qu'il signait les autographes, des oui. photos. D'une telle générosité, cet enfant-là. Alors, j'ai appris ça de lui. Je me suis dit, bon, mais moi, faut que je sois comme lui.
Oui, vous essayez de vous imprégner de ceux qui sont devant vous.
Oui, ceux qui ont passé avant moi.
Aussi. Oui. Prochaine chanson, présentez-nous-la donc. Elle s'appelle « Maman Becky Bobo ».
Ça, c'est une chanson, un texte magnifique qui a été écrit par Lise Aubu, avec qui j'ai fait 250 chansons. Lise, elle écrit d'une façon extraordinaire et ça fait 36 ans qu'on travaille ensemble. C'est mon agent aussi, c'est mon impresario. Et puis, c'est vraiment une chanson extrêmement touchante parce que ça parle des gens qui sont pris dans des tours infernales. T'es obligé de... Nous autres, on est chanceux. Je suis chanceuse, moi, parce que je vis dans le bois, dans la forêt avec mon petit troc. Mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des endroits où c'est très dur. Le travail est dur. Pour la majorité des gens qui travaillent, c'est difficile.
Alors, c'est un peu ce qu'évoque cette chanson.
Oui, puis c'est le on demande pour une prière. On veut que la terre change. On veut que la nouvelle génération change ça pour que le monde soit en paix et dans l'amour.
Alors, on écoute.
Ton enfance est blessée au premier jour d'été. C'est décrocher le cœur contre tant de tiédeur. La planète se balance d'entre d'indifférence, deux ou trois évidences et des murs de silence. Maman Becky Bobo, Maman Becky Bobo, cette vie prestissime, on n'a plus rien de rigolo. C'est un mauvais mélo. Maman, on vit solo. Maman, j'en ai vu trop. Y'a plus d'amour au saut. L'amour est mort trop tôt. Becky Bobo, Maman Becky Bobo, enfant du nucléaire ou fils de la lumière, rêvant d'une prière, car tout est à refaire. Chasse la nuit qui partout me poursuit, qui partout me poursuit. Maman Becky Bobo, Maman Becky Bobo, Maman Becky Bobo, Maman Becky Bobo.
Madame Butler, vous parliez de paix et d'amour en présentant la chanson que nous venons d'entendre. Quand vous regardez l'environnement, on parle beaucoup de la détérioration de la planète, de cette nouvelle génération qui se sent peut-être plus préoccupée par l'environnement que nous pouvions l'être. Comment est-ce que vous analysez, quelle lecture faites-vous de l'état de la planète, justement? J'imagine que quand on est un artiste, on veut aussi traduire ce sentiment-là.
Ben, moi, je suis très déçue de notre génération parce que notre génération était supposée être celle qui allait changer le monde. Oh, c'est notre génération qui était les « peace and love ». Hein, faites l'amour et non la guerre. C'était notre génération qui était granola, qu'on se promenait avec des sandales dans les pieds puis des grandes robes fleuries. C'était nous autres qui étions supposés de changer tout ça. Alors, je regarde en arrière, je me dis, mais où on est allés, nous? Qu'est-ce qu'on a fait?
Et comment se fait-il que ça ne se soit pas concrétisé, justement, ce rêve de peace and love, ce rêve de fraternité universelle?
Bien, je pense que la majorité des jeunes, qu'on était 18 ans, 15 ans, 20 ans, à l'époque où on était tous peace and love, ils se sont tous trouvés des jobs steady. Et puis les seuls qui ont vraiment continué, c'est les artistes, les gens qui ont fait, moi, les gens que je connais qui ont continué à faire de la musique ou de la peinture, tout ça, sont restés dans le côté écologique. Moi, j'ai toujours été écologique. J'ai toujours, quand je vivais à Montréal, moi-même, j'allais porter mon papier à telle place. Il fallait que je me promène pour les bouteilles dans la bonne à une autre place. Et je suis très économe dans les choses. Le papier, par exemple, j'ai toujours écrit sur les deux côtés d'une feuille de papier. Jamais je vais jeter un papier s'il n'est pas tout utilisé. Jamais je vais jeter un morceau de bois s'il n'a pas tout été utilisé. Toutes les choses qui sont vivantes, et ça, j'ai appris ça quand j'étais au Japon, toutes les choses, même les objets inanimés, il faut avoir un respect de tout. Je ne tue même pas une mouche, moi. Je prends la mouche, je la sors dehors.
Ah oui.
Oui, parce que peut-être que les hirondelles ont faim, ils vont vouloir la manger.
Alors, cette conscience-là a toujours été présente chez vous. Est-ce que vous avez, quand vous regardez, vous disiez tantôt que maintenant on regarde parfois derrière soi, mais quand vous regardez devant vous, est-ce qu'il y a de l'espoir, est-ce qu'il y a de l'espérance pour la suite des choses?
Bien, dans mon temps, on avait une bonne idée d'avoir la paix et être écologique, mais il y avait les systèmes n'étaient pas mis en place. Les gouvernements ne s'en mêlaient pas. C'était juste un paquet de hippies. Hein? C'est les hippies qu'on était. Aujourd'hui, les jeunes peuvent compter beaucoup plus sur les organisations. Les gouvernements commencent à s'en mêler. Il y a des organisations assez puissantes qui travaillent pour l'écologie. On entend beaucoup, beaucoup parler de ça dans le groupe des 7, des 8, des 12, des 15. Tu sais, on entend parler. Ils sont supposés de mettre des mouvements en place, des projets en place. Et là, savoir si c'est trop tard, ben on le saura. On le saura jamais.
Oui. Vous parliez du mouvement hippie. Est-ce que vous avez subi des influences? Parce qu'à cette époque-là, je pense à des auteurs comme Bob Dylan, John Baez, on pense aussi à Peter, Paul and Mary.
Oui, oui.
C'était l'époque,
c'était
justement.
C'était cette époque-là.
Oui. Est-ce qu'ils vous ont influencé à vos débuts? Oui, beaucoup.
Beaucoup. Ah oui, Peter, Paul and Mary, ça, c'était bon. Puis oui. John Baez, c'est sûr.
Parce que c'était ce qu'on appelait le folk américain.
Oui, c'est le folk music qui est un peu le pendant des chansonniers. Parce que le folk music, c'est pas la chanson folklorique. C'est vraiment les chansonniers. Bob Dylan, c'est un chansonnier, c'est pas un folkloriste.
Les textes étaient importants
c'est
à ce moment-là.
C'était les textes. Alors que moi, à l'époque, j'étais une folkloriste traditionnelle. Et je suis devenue un chansonnier par après parce que j'ai composé, comme je vous dis, avec les obus, la chanson qu'on vient d'entendre tantôt, là, Maman oui. Becky Bobo, Paquet de Ville, c'est avec lui, j'ai fait ça, Un million de fois je t'aime, Les Malespoirs.
et parlant de textes, il y avait aussi, ici au Québec, Clémence, qui commençait avec, bon, vous en avez parlé, les beaux os, mais qui commençait aussi à nous faire prendre conscience de plein de choses. Mm-hmm. Si vous voulez bien, vous savez que Jean-Guy Moreau, l'humoriste, a écrit une superbe chanson à l'égard de Clémence, qui a pour titre « À cœur ouvert ». On l'écoute et on revient là-dessus.
OK.
Garder les yeux et la voix de l'enfance, sa fraîcheur et son innocence. Elle traverse la vie, ses joies, ses turbulences, à cœur ouvert la Clémence, à cœur ouvert, à cœur ouvert la Clémence, à cœur ouvert. La tête dans les nuages, elle n'a vu passer le temps. On ne lui donnerait jamais son âge. Elle parle d'amour, sans maquillage, sans du tout. Son âme remplie de tendresse. Elle a gardé les yeux et la voix de l'enfance, sa fraîcheur et son innocence. Elle traverse la vie, ses joies, ses turbulences, à cœur ouvert la Clémence, à à cœur ouvert. À cœur ouvert, la clémence, à cœur ouvert. Avec des pleurs dans son rire et des sourires plein sa peine, elle donne tout ce qu'elle peut offrir. Une vie, un jardin d'humour, de tendres chansons. Non, la clémence n'a rien à vendre. Elle a gardé les yeux et la voix de l'enfance, sa fraîcheur et son innocence. Elle traverse la vie, ses joies, ses turbulences, à cœur ouvert, la clémence, à cœur ouvert. Vers la clémence, à cœur ouvert, à cœur ouvert, la clémence, à cœur ouvert, à cœur ouvert, la clémence, à cœur ouvert, à cœur ouvert, la clémence, à cœur ouvert. À cœur ouvert, la clémence, à cœur ouvert.
C'est une chanson qui est méconnue, hélas, mais quelle est vraiment jolie, cette chanson. Quand il parle de la clémence. Clémence qui a joué un rôle important dans l'évolution, je vous dirais, peut-être mm-hmm. même des arts, et même qui a été une précurseur de plusieurs humoristes.
Oui, mais il l'a dit, Jean-Guy Moreau l'a dit lui-même. Tous les gens disent que c'était vraiment la première à faire. Et elle avait un humour vraiment particulier parce que c'est extrêmement personnel aussi, hein? C'est qu'elle a parlé de ses problèmes, de ses bobos, avec beaucoup d'humour.
De sa ménopause.
du cancer. Ouais. Elle a parlé de beaucoup de choses qui effrayaient les femmes, mais elle l'a fait d'une façon drôle, mais en même temps extrêmement touchante. Puis elle a composé aussi beaucoup de chansons qui sont touchantes.
Parce que vous n'étiez pas nombreuses. Il y avait vous, il y avait Clémence, il y avait à une certaine époque Monique Miville-Deschênes qui faisait de la chanson.
Oui.
Mais la place était davantage occupée par les hommes, les chansonniers.
Oui.
Des femmes dans ce milieu-là, il n'y en avait pas beaucoup.
Non, des auteurs-compositeurs, non, il n'y en avait pas. Mais je pense que c'était plus facile à cette époque-là de faire une carrière, même si j'y ai jamais pensé. Je pensais pas faire une carrière, là, je m'amusais. j'avais du plaisir à chanter, comme aujourd'hui j'ai du plaisir à chanter toujours. Hein.
Vous pouvez imaginer votre vie sans la chanson?
Non, mais je pourrais imaginer facilement ma vie sans le métier.
Oui.
Mais pas sans la chanson. Mais, tu sais, il y a une grosse différence. Ma mère chante. Je pourrais pas arrêter le moment de chanter. Ma mère n'a jamais fait une carrière. Elle n'a jamais fait le métier. Mais ma mère chante tous les jours. Elle s'installe au piano, puis elle chante. Elle chante encore vraiment fort et bien. Non, je pourrais pas me passer de la chanson. Mais...
Est-ce qu'on peut dire que...
À un moment donné, j'aurais pu me passer du métier.
Oui, vraiment.
Mais là, non.
Non.
Actuellement, non. Actuellement, il y a comme un regain de vie à l'intérieur de moi.
Oui.
Et depuis 2 ans, là, je suis comme repartie sur une autre tournée. J'avais décidé que c'était ma dernière tournée, mais là, elle est tellement longue,
cette tournée-là. C'était pour vos premiers adieux, mais il y en aura d'autres.
Oui, d'après moi, c'est un long, long, long adieu.
Revenons à la chanson. La prochaine est vraiment une chanson traditionnelle. C'est une chanson autochtone?
Oui, en fait, c'est une chanson que peut-être les gens connaissent qui vient de... C'est les Hurons qui chantaient cette chanson-là. Puis moi, quand je l'ai fait écouter à Catherine Lara, tout ce que j'avais, c'était un petit couplet. Puis elle a beaucoup aimé ça. Puis elle a dit, ben, je vais composer un refrain. Mais le début, la chanson avait été faite par Jean de Brébeuf.
Le père.
Celui
qui avait d'ailleurs composé le Noël Huron, dit-on.
Ben c'est ça. C'est le Noël Huron, mais en Huron. Et le refrain a été écrit quatre siècles plus tard par Catherine Lara. Mais lui, c'était pas lui qui avait composé la musique.
Non, c'était une musique traditionnelle
du Moyen Âge. Puis il avait mis des paroles huronnes là-dessus.
Alors, le titre de cette chanson?
Ben, c'est-à-dire que moi, après ça, je suis allée jouer pour les Algonquins et on avait besoin des paroles pour le refrain. Alors, j'ai écrit moi-même le refrain en algonquin qui s'appelle Kikimo Amassine. Ça veut dire enseigne-moi la mort, enseigne-moi la naissance, enseigne-moi l'éternité.
Chanson d'éternité, Edith Butler, qui était avec nous au cours de la dernière heure. Quand on parle d'éternité, est-ce que vous avez peur de la mort?
Ah oui!
Oui?
Ben oui!
Vous voulez tout pas mourir?
Non, mais tout le monde dit non, non, on n'a pas peur de la mort. J'ai peur de la mort, quel diable!
Ah oui?
Ah oh, oui, oh, non, moi je ne veux pas mourir, je ne suis pas prête à ça, je touche du bois, non, je ne veux pas.
Vous pouvez toucher du bois?
Ah oui! Ah non.
Est-ce
non,
que cependant, quand vous envisagez, parce qu'on a tous une finalité, est-ce que vous envisagez une vie ultérieure? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose d'imaginable?
Ben, j'ai pas encore eu le temps d'y penser trop. C'est imaginable, oui, c'est imaginable, mais je peux pas savoir.
Puis on veut pas y penser pas. Pour le moment.
Moi, je dis, si Dieu existe, il existe. Même si je dis qu'il existe pas, il existe. S'il y a une vie après, comment que je pense qu'il n'y a pas de vie après? Il y en a une. Fait, moi, ça ne sert à rien de penser à tout ça. Ma mère disait tout le temps, quand j'avais des problèmes de même, elle me disait, « Ben, pense pas à ça, tu vas virer folle.
»
Alors, toutes les choses qui m'intriguent un peu, et dans de toute façon que je ne connais pas les réponses, je me dis, « Bon, ben, j'y pense pas. Dieu existe, Dieu est là, il est là. »
On risque à tout le moins, quand vous serez de l'autre côté dans plusieurs siècles, parce qu'on va vous garder longtemps avec nous, il risque d'y avoir un méchant party de l'autre côté avec votre musique.
Avec mon rire, en tout cas.
Avec votre rire aussi. Dites-moi, votre prochain projet immédiat serait lequel?
Nous sommes après finaliser un livre, une biographie. En fait, c'est une autobiographie, mais qui n'est pas écrite par moi, qui est écrite par Lise Aubut. Je lui raconte mon histoire et elle l'écrit dans son style. Et c'est vraiment un beau livre.
Et cette vie, ça a été une vie heureuse?
Ah, une vie vraiment, vraiment, vraiment heureuse. C'est pour ça que je veux pas mourir, je veux pas l'arrêter. Je veux que ça continue aussi longtemps que possible. Ma grand-tante est morte à 108, alors je veux la battre. Je veux aller plus loin qu'elle.
Ben, je peux vous dire que ça a été aussi pour nous un moment heureux que de vous recevoir. L'heure a passé de façon extraordinairement rapidement. On vous souhaite de la santé, beaucoup de succès encore et une tournée d'adieu qui ne se terminera jamais.
Voilà. Merci beaucoup.
Alors, c'était l'émission Au gré du temps. Nous recevions aujourd'hui Mme Edith Butler et Armand Dubois qui vous souhaitent de passer une excellente semaine. Cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Nikolai Djouchkin. À la prochaine. Au revoir.
C'est Marie qui est si bip-bip-bip qui est allée veiller bip-bip-bip dans la voie. Et t'as l'éveillé, bip, bip. can a baby be my way? Au mi-temps de la soirée, bip bip, c'est mi-temps neige, bip bip, n'allez. Où les hommes allaient, bip bip, de chez Henry, bip bip, n'allez. Dans la bouillée, bip bip, n'a c'est embourbé, bip bip, n'allez. Nam ni ma di pe bi bi na la we. Ala krie faye bi 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 nam ni ma di pe bi bi na la we. Yo kuri verye bi 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 na vi tout le pe bi 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 na la we. Pris par les gens, bibi, bit, n'y avait pas grand bien, bibi, bit, n'a loué. Y avait des glaçons, bibi, bit, le bout des talons, bibi, bit, n'a loué. Ils l'ont mis au lit, bibi, bit, 3 jours et 3 nuits. Veillez,